Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International en ce mardi 26 décembre, parce que oui, nous sommes présents à l'antenne de Principe Actif pour notre seconde émission du mois de décembre. Donc, nous espérons que toutes celles et ceux qui nous écoutent auront passé de joyeuses fêtes de Noël, en attendant celles du premier de l'an qui ne vont pas tarder. Et donc, voilà, comme on fait tous les ans, effectivement, à cette période-là de l'année, on va donner la priorité à pas mal d'informations positives, puisqu'en cette période, effectivement, c'est pas la peine de parler trop de sujets qui sont un petit peu, entre guillemets, plombants. Donc, voilà, on va se donner la priorité pour des choses positives et des bonnes nouvelles, et également de la poésie, mais je ne vous en dis pas plus.
Émission spéciale.
C'est ça.
Avec plein de surprises.
Parce que c'est Claire-Lise qui vous en a parlé. Mais j'ai pas pris le temps de vous les présenter, et ce soir, on est très nombreux autour du micro, donc il y a Claire-Lise.
Bonjour.
Il y a Edith.
Bonsoir.
Il y a Odile.
Bonsoir.
Il y a Dominique.
Bonsoir.
Et il y a Christian.
Bonsoir.
Voilà, donc on est très très nombreux autour du micro. Des micros. Donc pour commencer, effectivement, c'est place à la poésie en cette période de fête. Et c'est Claire-Lise qui va commencer.
Alors, bonjour à tous. J'ai un petit livre dans les mains. Je vais d'abord vous le présenter. Donc ça s'appelle « 100 poèmes pour la liberté ». Alors, c'est un ouvrage qui a été édité, choisi par la section française d'Amnesty International. Et cette publication de cette anthologie célébrait alors, en 1984, le 36e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a fêté les 70 ans à notre précédente émission. Elle réunit 100 poèmes d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. 100 poèmes parmi d'innombrables hymnes dédiés à la liberté sous toutes ses formes. Liberté enracinée aux origines de toute dignité humaine, toujours renaissante, toujours menacée. Liberté infiniment multiple et pourtant une. Les hommes épris de justice t'ont toujours servi. Souvent t'ont trahi en voulant t'instaurer. Liberté, liberté, que de crimes ont commis en ton nom. Mais les poètes, tes amants à jamais, t'ont sauvé. Ces esprits simples, fous de douleur, fous d'espérance, par leur ardent sanglot qui roule d'âge en âge, ont été tes héros, les garants de ta victoire. Et donc le premier poème issu de ce livre que j'ai envie de partager avec vous, c'est un poème de Julio Fausto Aguilera, donc du Guatemala. Avec un poème, c'est vrai, tu ne chasses pas un tyran. Avec un poème, tu n'apportes ni pain ni toit à l'enfant vagabond, ni remède aux paysans malades. Surtout, tu ne peux pas le faire à l'instant même. Mais nous allons voir. Un poème bien né et vigoureux, et un autre plus enflammé, et un autre plus vigilant, et un autre poème plus fort et plus véridique donnent vie à un rêve qu'ils ont cueilli tout tendre. Et ce rêve de beaucoup d'hommes, une fois nourri, devient une conscience. Et cette conscience, une passion, un désir angoissé. Jusqu'au jour où tout rêve, conscience, désir s'organise, compacte. Et alors vient le cri, et le poing, et la conquête. Dans l'effigie de la conquête brille un diadème, le poème. Voilà, c'était le premier poème que je voulais partager avec vous ce soir.
Merci, effectivement, c'est moi qui suis très, très sensible à la poésie, c'était un très beau texte. Alors nous, on a décidé, à trois voix, avec Odile et Christian, on a décidé de vous faire un petit historique sur ce qu'a fait Amnesty depuis sa création, d'où ça vient, et surtout, essentiellement, les victoires que l'on a rencontrées On n'aura pas le temps de faire un historique sur 60 ans d'histoire qui représente le mouvement d'Amnesty.
Mais
on vous dira au moins quelques grands chapitres qui ont marqué les victoires remportées grâce à nos activités. Je vais arriver à le dire. Comme on est le lendemain de Noël, on a un peu fait la fête, on a un peu de mal à parler. Donc voilà, je commence. Ouvrez votre journal, n'importe quel jour de la semaine, et vous trouverez, venant de quelque part dans le monde, une dépêche indiquant que quelqu'un a été emprisonné, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion ont été jugées inacceptables par son gouvernement. Quand on lit la presse, on ressent un malaise face à sa propre impuissance. Mais si les sentiments de dégoût éprouvés dans le monde entier pouvaient être fédérés dans une action commune, on pourrait faire quelque chose. Et ces phrases-là, ça a été dite par Peter Benenson, qui est l'avocat fondateur d'Amnesty International.
Amnesty International a été fondée en 1961 autour de l'idée qu'en unissant leurs forces, de simples citoyennes et citoyens pouvaient faire changer le monde. Aujourd'hui, Amnesty est un mouvement mondial de défense des droits humains qui s'appuie sur la puissance collective de plus de 10 millions de personnes. Chacune d'entre elles engagée dans la lutte pour la justice, l'égalité et la liberté à travers le monde. De Londres à Santiago, de Sydney à Kampala, elles se sont réunies pour exiger que les droits de chaque être humain soient respectés et protégés.
Les progrès réalisés n'ont cependant pas été instantanés. Pour avancer, il a fallu tenir bon et s'accrocher à la certitude que l'humanité a la capacité de faire bouger les choses. Le résultat ? La remise en liberté de dizaines de milliers de personnes placées en détention en raison de leurs convictions ou de leur mode de vie. L'abolition de la peine de mort dans des dizaines de pays. Des responsables politiques, auparavant intouchables, amenés à rendre des comptes. Des lois modifiées, des vies changées.
Comment mesurer 60 ans d'action collective ? Elles sont là. Lorsqu'un accusé bénéficie d'un procès équitable, lorsqu'une prisonnière échappe à l'exécution ou lorsqu'une personne détenue n'est plus victime d'actes de torture. Elles sont là lorsque des militants et militantes sont remis en liberté et peuvent continuer à défendre les droits humains. Lorsque des enfants apprennent leurs droits à l'école ou lorsque des familles sont escortées pour quitter les camps de personnes réfugiées et rentrer chez elles en toute sécurité. Elles sont là lorsque des populations marginalisées manifestent pour réclamer la fin des discriminations, lorsqu'elles réussissent à sauver leur foyer de la destruction et lorsqu'une femme est enfin protégée par une loi qui interdit les violences dont elle était quotidiennement la cible.
En 1973, Amnesty International publie sa première action urgente afin d'encourager la population à agir. Au nom de Luiz Basilio Rossi, un professeur brésilien arrêté pour des motifs politiques. Ce dernier attribuera ensuite l'amélioration de sa situation au soutien populaire suscité par ses appels. Je savais que mon cas avait été porté sur la place publique et qu'il ne pouvait pas plus me tuer. Alors les pressions dont je faisais l'objet se sont atténuées et mes conditions de détention se sont améliorées. Depuis lors, les sympathisants d'Amnesty International ont fait campagne à travers le monde pour défendre des milliers d'individus, de familles et de groupes de personnes. Dans environ un tiers de ces affaires, ces actions sont suivies de changements positifs. Et lorsque ce n'est pas le cas, elles permettent tout de même d'apporter du réconfort et de l'espoir.
Dans les années 1970, le régime chilien dirigé par le général Augusto Pinochet accepte la venue d'une délégation composée de 3 représentants d'Amnesty International et chargée d'enquêter sur les allégations faisant état de violations massives des droits humains. Plus de 20 ans plus tard, Amnesty International est parti à des procédures judiciaires qui ont conduit à l'arrestation d'Augusto Pinochet au Royaume-Uni pour des crimes commis au Chili. En 1979, Amnesty International publie une liste de 2665 cas de personnes disparues en Argentine, après le coup d'État militaire mené par Jorge Rafael Videla. Cette publication visait à aider les amis et les familles de ces personnes à obliger les responsables à rendre des comptes. Au cours de cette même décennie, Amnesty International obtient le prix Nobel de la paix pour avoir contribué à garantir les bases de la liberté et de la justice et avoir ainsi contribué à la paix dans le monde. C'est un hommage exceptionnel rendu au travail considérable et à la détermination des sympathisants et sympathisantes d'Amnesty International à travers le monde.
Eh bien, un petit break un peu dans le best-of d'Amnesty. Vous allez reprendre ça tout à l'heure, je pense.
Oui, oui.
Mais là, moi, j'avais envie de parler de témoignages un petit peu, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire à chaque fois dans les émissions, les deux émissions mensuelles avec l'actualité qui nous rattrape très souvent. Et bien aussi, vous parlez un peu du droit des femmes. Alors, si je vous dis Paulette Nardal, vous connaissez ?
Tu nous fais un quiz, c'est ça ?
Je pense que je vais gagner tout de suite, parce que si quelqu'un me dit oui, je vais être très, très surprise. Non, voilà, personne ne connaît. Et bien, Paulette Nardal, c'est la première étudiante antillaise à la Sorbonne. Alors, je vais vous raconter un petit peu sa vie. Donc, le titre, c'est un article que j'ai trouvé dans la chronique, vous savez, le mensuel d'Amnesty. Le sous-titre, c'est Paulette Nardal, l'oubliée de la négritude. Alors, Université de Miami, Floride, en 1987. Aimé Césaire prononce son discours sur la négritude devant un large public. Quand l'écrivain antillais évoque ceux qui ont fondé avec lui ce concept définissant l'identité noire, il n'énumère que des noms d'hommes. 1974, Fort de France. Paulette Nardal, 78 ans, se confie à son biographe, Philippe Grolemon. J'ai souvent pensé et dit à propos des débuts de la négritude que nous n'étions que des malheureuses femmes, ma sœur et moi, et que c'est pour cela que l'on n'a jamais parlé de nous. Et d'ajouter, au sujet de Césaire et du Sénégalais Senghor, pionnières, nous leur avons indiscutablement ouvert la voie. Paris, 1920. Paulette et sa sœur Jeanne, toutes deux issues de la bourgeoisie noire de la Martinique, débarquent à Paris. Elles sont les premières antillaises à intégrer la Sorbonne. Subjuguées par la vie culturelle de la ville lumière, les jeunes femmes fréquentent le bal nègre, les boîtes de jazz de Saint-Germain-des-Prés, les revues de Josephine Baker et de la cantatrice afro-américaine Marian Anderson. Elles s'y éveillent à ce qu'elles appellent la conscience noire, objet principal d'un salon littéraire qu'elles tiennent alors dans leur appartement de Clamart. Se croise ici la fine fleur des intellectuels et écrivains des diverses diasporas noires, notamment Césaire, Senghor, René Maran, martiniquais lui aussi, et Goncourt 1921 pour son roman Batouala, dénonçant les excès du colonialisme. Après avoir contribué à la Dépêche africaine, où sa sœur publie un texte prônant l'internationalisme noir, j'ai du mal,
c'est le lendemain de fête, c'est dur.
Paulette lance en 1931 la Revue du Monde Noir, bilingue français-anglais, consacrée à l'art, la littérature et les idées. Paulette s'y définit comme une intellectuelle négresse et y invente ce « Black is beautiful », formule qu'elle utilisera tout au long de sa vie. Elle y impose également le vocable « nègre » comme une fierté d'appartenance, bien loin de son sens péjoratif. Féministe, intersectionnelle avant l'heure, Nardal exprime aussi des revendications d'un féminisme noir. Très attachée à la France et à sa culture, à la différence de ses amis autonomistes du salon de Clamart, elle juge stupide l'indépendance des Antilles. De retour à la Martinique, elle fonde un nouveau salon littéraire et forme à l'anglais des jeunes, allant rejoindre la France libre. La guerre terminée, elle entre en politique et crée le Rassemblement féminin, parti qui veut inciter les Martiniquaises à exercer leur tout nouveau droit de vote. Elle sera un temps déléguée à l'ONU pour les territoires non autonomes, mais Paulette dérange. En 1956, elle est victime d'une tentative d'assassinat. Cette passionnée de musique décide alors d'abandonner la politique pour se consacrer à sa chorale, la joie de chanter et d'exprimer par ses écrits la profondeur de l'âme noire à travers le chant, le folklore et les Negro Spirituals. En 1985, Sangor finira par citer l'influence de cette femme de lettres et de conviction à la toute fin de la vie de Paulette Nardal. Une reconnaissance tardive. Et voilà. Et nous, on lui fait une seconde reconnaissance, voire même une connaissance, je pense, pour chacun d'entre nous.
C'est cela. Ben, merci Edith pour ce témoignage. On va passer tout de suite à la première pause musicale et on se retrouve sur l'antenne juste après. Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'entendre Cesaria Evora, un morceau qui s'appelle Saudade, je ne sais pas comment on prononce en portugais. Et donc c'est un morceau qui nous a été proposé par notre amie Odile, qui est avec nous dans le studio ce soir.
Bravo.
Odile, oui c'est ça, Odile.
J'ai Bravo. Pied.
Donc voilà, on va revenir tout de suite à la suite de notre émission. Donc spécial bonne nouvelle, avancée pour les droits humains et puis poésie, puisque nous sommes le...
Émission 26 décembre.
Puisque nous sommes le 26 décembre. Et on va repartir avec de la poésie, et c'est Claire Lise qui va vous relire un poème.
Et oui, toujours de mon petit ouvrage « 100 poèmes pour la liberté » qui avait été édité pour soutenir Amnesty International.
Avec un beau dessin de Folon sur la couverture. Oui.
Donc là, j'ai choisi un second poème de Francis Cargot. Devant les champs et les prairies, devant le ciel, comme la mer, je regarde le cœur amer, les tours de la maladrerie. Elle surplombe l'horizon de forêts, de pluie et de brume, et dans l'ennui qui s'accoutume, morne, enferme la prison. Ah, vieille tour, que votre empire est donc odieux à celui qui, du matin jaune à la nuit, obéit, travaille et soupire. Vous l'accablez à tout instant, il vous voit, il souffre en silence. Mais l'espoir dit à la violence, ne tout soulève pas, attends. Il attend. Il sait que derrière les murs, l'horizon souffre, s'ouvre et luit, et que le grand chemin conduit qui veut durant la vie entière. Il attend. Le ciel qu'il peut voir par la lucarne l'illumine. Et malgré qu'il pleuve ou bruine, prend sur lui d'étranges pouvoirs. Il attend. Oh, l'aube trop grise. Oh, le soir trop lent. Oh, parfois, l'amour, l'espérance, la foi, dont son âme forte se grise. Oh, mais un rayon de soleil suffit. L'heure qui vient et passe n'aura jamais plus, quoi qu'on fasse, à l'horloge un timbre pareil. Ni ce cri, cette note aiguë, ni cette aile qui bat dehors les pierres, ce soudain essor dont elle repart dans la rue. Tout le presse, tout lui promet la liberté, cette merveille, qui sourit, la rose à l'oreille, mais qui chante les poings fermés.
Voilà, merci Claire Lise, c'est effectivement, tu nous rappelles le titre de ce poème ?
Eh bien, eh bien, c'est extrait de Dans la bohème et mon cœur. Voilà. Et c'est Francis Cargot qui l'a écrit, il n'y a pas de titre.
D'accord. Voilà. Ok. Alors, on va passer maintenant à quelques informations culturelles, comme on dit dans les émissions. Et c'est Dominique et Edith qui vont vous en parler.
Eh bien, moi, je vais vous parler d'un documentaire qui a été fait par un Polonais, Maciek Amela. Donc, c'est l'homme orchestre de ce documentaire. Il est réalisateur, chauffeur bénévole, interprète. Depuis le début de la guerre en Ukraine, il évacue en minibus les civils et les films. Dans l'habitacle de ce van, à 8 places, des passagers de toute origine sociale forment une petite communauté presque fraternelle, le temps du voyage. L'espace clos est propice aux confidences, douloureuses, mais aussi cocasses, alors que les vies de chacun sont en transit. Un homme, accompagnant ses proches, rappelle à Maciek qu'il lui confie ce qu'il a de plus précieux. Une femme raconte qu'elle a tout laissé, et dans l'ordre, sa maison, sa télévision, ses chiens et sa vache, beauté, qui mange de tout, même du pain à la mayonnaise. À l'évocation de cette vie désormais révolue, la voix de la passagère s'étrangle. Une autre explique qu'elle est mère porteuse et qu'avec l'argent de la GPA, elle rêvait d'ouvrir un café. Incroyable de justesse, les échanges entre les enfants révèlent leur appréhension de la guerre dans tous les sens du terme. Tandis que se nouent ces conversations à bâtons rompus où le « il » désigne implicitement l'agresseur russe, des plans de coupe montrent des chars, des checkpoints, des mines. Embarqué dans ce drôle de road movie, le spectateur découvre une facette du conflit intimiste et bouleversante. Donc, je vous rappelle le titre du documentaire, c'est « Pierre, feuille, pistolet » de Maciek Amela. Et c'est un film soutenu par Amnesty International.
Voilà, maintenant, il faut savoir où le voir. Donc, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est jamais.
Oui, effectivement. On a eu des contacts avec le cinéma. Peut-être qu'on pourra leur proposer ce film-là. Sait-on jamais.
Alors moi, j'ai envie de vous proposer une petite chronique sur un livre. Bon, Noël est passé, mais les petits cadeaux, ça peut continuer pour le 1er janvier. Puis on a peut aussi le droit de se faire un petit cadeau soi-même, parce qu'un livre, c'est toujours un bon compagnon. Donc c'est un roman. Il s'appelle « Là-haut sur la montagne ». Il est écrit par Valentine Gobi. Il paraît aux éditions Actes Sud. Il est au prix de 21,50 €, donc le prix normal pour un bon roman. Donc le thème, Vadim Pavlovitch n'a jamais quitté son quartier des Batignolles quand il débarque en plein cœur de l'hiver 1943 à la gare de Chamonix pour y soigner son asthme. Tel est au moins le motif officiel de cet exil au grand air. Car au lendemain de la rafle du Veldiv, c'est un autre danger que fuit ce garçon juif. Désormais, il va s'appeler Vincent Dorcel et il devra taire son origine et tout réapprendre chez le couple de paysans qui l'accueille. Il ne se raconte pas d'histoire. Il n'a ici aucun souvenir vieux de plus de 6 mois, mais on l'a fait venir sans lui poser de questions. Il a un lit, une hotte, un pépé, et cela suffit pour éprouver de la gratitude et un désir d'ancrage, se dit-il. Dans ce roman d'initiation empreint de poésie, Valentine Gobi raconte une renaissance en forme d'éveil à la beauté et à la nature. La montagne, telle une île haute, fait figure de refuge et de consolation. Et loin d'écraser le jeune citadin, elle le libère, l'élève. Vincent se fond dans le décor des cimes, des pics et des glaciers. Il fait corps avec les éléments. Guidé par l'intrépide Moinette, sa camarade de classe, il apprend les usages du coin, des mots nouveaux, le lexique de l'hiver et de l'estive. Il vit au rythme des bêtes et des saisons. Il dit « cof » pour « sale »,« tac » pour « besace », »,« gouille » pour « mare », »,« natte » pour « torrent ». Chaque fois qu'il préfère le patois au français, il lui pousse des racines. Petit à petit, l'étau de la peur se desserre. Il oublie le bruit de la guerre qui gronde et goûte à nouveau aux joies de l'enfance. La romancière, qui écrit aussi pour la jeunesse, maîtrise comme personne l'art des dialogues à hauteur d'enfant. Elle nous livre ici des pages savoureuses d'espièglerie et de tendresse, où rien n'est mièvre ou artificiel. Sonne juste. On connaissait son talent de conteuse des destins pris dans les filets de l'histoire. On la découvre peintre de la lumière. C'est un éblouissement, une invitation sensorielle. Alors, cette critique est signée Sylvia Roselier, et je vous rappelle L'île haute de Valentine Gobi aux éditions Actes Sud.
Gobi.
Merci Dominique. Voilà, je rajoutais un petit peu, mais c'est plus facile pour retrouver dans les lexiques.
Et puis comme on est nombreux dans le studio ce soir, il y a la moindre erreur est relevée aussitôt.
Tout à fait, voilà. Ça suit, je vois ça, super.
Bien, on va revenir à la suite de notre chronique à plusieurs voix sur les grandes étapes et les grandes victoires remportées par Amnesty International depuis 60 ans. Et c'est Odile qui va prendre la suite de toute cette historique.
Quand Amnesty International et ses sympathisants se sont lancés dans la lutte contre la peine de mort, en 1977, seuls 16 pays l'avaient totalement aboli. Aujourd'hui, ce nombre a atteint 142, le nombre de pays l'ayant aboli en droit ou en pratique. Ce qui représente plus de la moitié des pays du monde. Depuis 2011, des États comme le Bénin, Fidji, la Guinée, la Lettonie, Madagascar, la Mongolie, Nauru, la République démocratique du Congo, le Suriname et le Tchad ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions. Notre réussite a été guidée par la conviction que le droit à la vie est inaliénable. Avec votre aide, nous continuerons de lutter jusqu'à ce que le monde entier soit définitivement débarrassé de ce châtiment, le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit.
En 2002, les pressions exercées de longue date par des sympathisants d'Amnesty ouvrent enfin la voie à la création de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, afin d'enquêter et de poursuivre en justice les personnes, y compris des responsables politiques, des dirigeants de groupes armés et d'autres hauts responsables raisonnablement soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité, des génocides, des crimes de guerre ou un crime d'agression. Et j'ouvre une petite parenthèse personnelle. Une des dernières inculpées par la Cour pénale internationale s'appelle Vladimir Poutine.
Après 20 années de pression exercée par les sympathisants d'Amnesty et d'autres organisations, le traité mondial sur le commerce des armes, TCA, entre en vigueur en 2014 et représente une grande avancée pour l'humanité. L'objectif de ce traité est d'interrompre les flux irresponsables d'armes qui entraînent la mort de millions de personnes et favorisent les conflits ainsi que des violations massives des droits humains. Cette énorme victoire n'aurait pas été possible sans le soutien incroyable de nos donatrices et donateurs, de nos membres et de nos militants.
En 2015, à l'issue d'un travail de pression mené pendant plusieurs années par Amnesty International et ses sympathisants, la filiale nigériane de Shell annonce le versement d'une indemnisation de 55 millions de livres sterling à 15 600 fermiers et pêcheurs de Bodo au Nigeria, dont les vies ont été bouleversées à la suite de deux énormes déversements d'hydrocarbures de Shell en 2008. Cela ouvre la voie à de futures procédures impliquant d'autres populations nigérianes ayant pâti de la négligence de Shell. En 2021, un arrêt de la Cour suprême du Royaume-Uni indique que deux autres populations du delta du Niger ayant dû subir des répercussions de plusieurs années de déversements peuvent poursuivre le géant pétrolier devant un tribunal britannique.
En 2015 toujours, l'Irlande devient le premier pays du monde à adopter par référendum la pleine égalité devant le mariage civil. Cette décision adresse un message aux personnes LGBTI partout dans le monde pour leur dire qu'elles ont de l'importance, tout comme leurs relations et leurs familles, a déclaré le directeur exécutif d'Amnesty International Irlande, Colm O'Gordon. En 2019, Taïwan devient le premier État asiatique à légaliser le mariage entre personnes de même sexe à la suite de campagnes soutenues à ce sujet.
Dans un jugement historique pour la justice internationale, l'ancien président Hissène Habré a été condamné le 30 mai 2016 à la réclusion à perpétuité pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes de torture commis au Tchad entre 1982 et 1990. L'accusation s'appuie notamment sur des informations rendues publiques par Amnesty International dans les années 1980 et sur le témoignage d'un ancien membre du personnel de l'organisation.
Eh bien, on va interrompre ce petit rappel historique, effectivement, des victoires remportées par Amnesty et de l'évolution des droits humains dans le monde. On va écouter tout de suite notre deuxième pause musicale et on se retrouve juste après.
On se bat parce qu'on ne sait plus se taire. Pour ne jamais oublier comment inventer, comment faire. On se bat du bout de nos peines perdues. On se trompe, on recommence à la recherche de l'attendu. On se bat pour faire bouger les lignes. Le point d'exclamation, le point en l'air et celui à la ligne. On se bat parce qu'on veut faire chanter la petite voix des méprisés, des premiers de corvée. On se bat. On se bat. On se bat pour grandir sans crainte, sans se soumettre à l'injustice des violents et leurs contraintes, avec le doute de nos vies imparfaites, pour que nos mains puissent se toucher dans le gradin de la fête. On se bagarre pour ne plus avoir peur, pour nous remplir d'impossible, pour être actrice, pour être acteur, acteur de nos vies, de fracas et de joie. Parce que je sais pas comment ça marche, sans te prendre dans mes bras, je me bats. On se bat pour le droit de choisir, de faire ce pourquoi on est né. On se bat pour croire en l'avenir, on se bat pour oser les virages, On se bat pour la beauté du geste, sans barrière et sans cage. On se bagarre parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'on est plein à vouloir vivre pour des encore, pour des toujours. S'il manque une pièce, à quoi sert le puzzle? Si certains peuvent s'enfuir plus vite, on dit que personne ne court pour tout ça. On se bat. On profite du monde en travaux pour lui poser quelques questions. Tu fais quoi pour les exilés qui viennent s'échouer dans tes filets? À quoi tu joues? À quoi tu penses? À trop cultiver le clivage quand tu enfermes l'esprit critique pour le réduire en esclavage? Et tu fais quoi de tous ces gens qui font que tu tournes encore rond? Les oubliés, précarisés, transformés en chair à canon. Et qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Écoute la détresse de son cri quand tu lui fais une claque dans le dos en lui disant ça, c'est ta vie. Pourquoi tu joues avec la peur? Pourquoi tu veux la distiller? Pour bâillonner le libre arbitre ou pour lui couper son sifflet? Alors on se bat et on lâchera pas. Même si parfois les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles. Alors on se bat et on lâchera pas. Même si souvent les bras nous tombent, c'est pas pour ça qu'on les baissera. Alors on se bat et on lâche rien. Pour toucher du doigt l'impossible, pour que nos rêves soient invincibles. Pour tout ça. On se battra.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On vient d'écouter quelqu'un qui est un musicien, un artiste local qui s'appelle Ben Herbert Larue. On vous a déjà passé des morceaux de lui et qui est un grand soutien des combats d'Amnesty International. Et en cette période de fête, je vous ai choisi le morceau effectivement qui s'appelle À vos souhaits. Et c'est plein de souhaits positifs pour l'année qui vient, parce qu'en cette période de fête, on approche aussi du 1er janvier. Donc voilà, je pensais que c'était bien de vous repasser ce morceau-là. Et on va continuer avec la poésie, et c'est Claire Lys qui va continuer avec donc ses poèmes.
Eh bien là, j'ai choisi un poème de Léonard Sédar Senghor. Ah, on en parle souvent à Évreux, mais on ne lit pas souvent ses poèmes, donc voilà. « Cependant que s'évaporait comme l'encensoir le cœur du pasteur, et que son âme s'envolait, colombe diaphane qui monte, voilà que j'entendis, derrière mon oreille gauche, le battement lent du tam-tam. La voix me dit, et son souffle rasait ma joue, « Écris et prends ta plume, fils du lion !» Et je vis une vision. Or, c'était en belle saison, sur les montagnes du sud, comme du Foutadjalon, dans la douceur des tamariniers, et sur un tertre siégeait l'être qui est force, rayonnant comme un diamant noir. Sa barbe déroulait la splendeur des comètes, et à ses pieds, sous les ombrages bleus, des ruisseaux de miel blanc, de frais parfums de paix. Alors, je reconnus autour de sa justice sa bonté, confondus les élus et les blancs et les noirs, tous ceux pour qui Martin Luther avait prié. Confonds-les donc, Seigneur, sous tes yeux, sous ta barbe blanche. Les bourgeoises et les paysans paisibles, coupeurs de canne, cueilleurs de coton, et les ouvriers aux mains fiévreuses, et ils font rougir les usines, et le soir ils sont saoulés d'amertume amère. Les blancs et les noirs, tous les fils de la même terre-mère. Et ils chantaient à plusieurs voix, ils chantaient « Hosanna ! Alléluia !» comme au royaume d'enfance autrefois, quand je rêvais. Or, ils chantaient l'innocence du monde, et ils dansaient la floraison, ils dansaient les forces qui rythmaient la force des forces, la justice accordée, qui est beauté, bonté. Et leur battement de pieds syncopés était comme une symphonie en noir et blanc, qui pressait les fleurs, écrasait les grappes pour les noces des âmes, du Fils unique avec les myriades d'étoiles. Je vis donc, car je vis, George Washington et Phyllis Wheatley, bouche de bronze bleu qui annonça la liberté, son chant l'a consumée, et Benjamin Franklin et le marquis de Lafayette sous son panache de cristal. Abraham Lincoln, qui donna son sang, ainsi qu'une boisson de vie à l'Amérique. Je vis Booker T. Washington, le patient, et William E.B. Dubois, l'indomptable, qui s'en alla planter sa tombe en Nigriti. J'entendis les voix blues de Langston Hughes, jeune comme la trompette d'Armstrong. Me retournant, je vis près de moi John Fitzgerald Kennedy, plus beau que le rêve d'un peuple, et son frère Robert, une armure fine d'acier. Et je vis, que je chante, tous les justes, les bons que le destin dans son cyclone avait couchés, et ils furent debout par la voix du poète, tels de grands arbres élancés qui jalonnent la voie, et au milieu d'eux, Martin Luther King. Je chante Malcolm X, l'ange rouge de notre nuit. Par les yeux d'Angela chante George Jackson, fulgurant comme l'amour sans aile ni flèche, non sans tourment. Je chante avec mon frère, la négritude debout, une main blanche dans ma main vivante. Je chante l'Amérique transparente où la lumière est polyphonie de couleurs. Je chante un paradis de paix.
Merci. Tu nous redis le titre du poème ?
Eh bien, c'est une élégie pour Martin Luther King et c'est donc Léonard Sédar Senghor qui l'a écrit. Et je trouve qu'on ne lit pas souvent. Il fait des choses magnifiques.
Tout à fait. On vous parle souvent de l'importance de tenir informé sur les violations et les avancées en concernant les droits humains à travers le monde. Et pour ça, on parle aussi souvent à la radio du mensuel publié par Amnesty International France qui s'appelle La Chronique. Et on vous incite à vous y abonner. Le formulaire, il est sur le site amnesty.fr. Mais c'est Dominique, effectivement, qui va vous dire pourquoi c'est important de vous abonner et de vous informer et de vous abonner à La Chronique.
Eh bien, parce que chaque mois, la chronique d'Amnesty International vous éclaire sur l'actualité des droits humains. C'est un tour du monde des combats, des victoires, de celles et ceux qui défendent ces droits. La chronique, c'est 52 pages d'informations, des enquêtes, des reportages de terrain, des entretiens et des récits inédits. Dans nos pages, des journalistes, des photographes de talent, mais aussi des artistes, décryptent les menaces qui pèsent sur nos droits fondamentaux. Tout en s'adressant au plus grand nombre, ils livrent une lecture sensible et fiable. C'est une information 100% indépendante. S'abonner à la chronique, c'est soutenir un journalisme de qualité et indépendant. Notre magazine est sans publicité. Il vit uniquement grâce au soutien de ses lecteurs et de ses lectrices. C'est seulement 3 euros par mois, donc 36 euros par an. Voilà.
Merci. Pour une fois, on fait de la publicité, mais c'est de la publicité ciblée. Amnesty,
mais franchement, ça vaut le coup.
Voilà.
Didier, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Ouais, alors c'est Gilles qui me l'a soufflé dans l'oreille.
Bon, vas-y.
Parti dans mon élan, j'ai parlé de Léonard Sédar Senghor. Et bien sûr, il fallait entendre Léopold.
On va l'appeler Léopold, on a plus l'habitude.
La première fois, je l'ai bien dit, mais la deuxième fois, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit Léonard qui est apparu.
Tu vois, ça ne m'avait même pas choqué.
Bon, Léonard, c'est un joli prénom.
Oui, mais j'aime pas dire des...
Ça m'avait choqué.
Bon, en plus, j'étais en train de dire qu'on parlait pas souvent de lui, on lisait pas souvent
ses œuvres. Forcément, quand il l'appelle pas par son bon prénom, il l'aime pas.
Donc voilà, désolé Léopold.
Non, c'est pas grave. Et donc, on va continuer et terminer notre petit tour à plusieurs voix, notre petit tour du monde des avancées obtenues grâce au combat d'Amnesty International pour les droits humains. Et c'est Christian qui va vous en parler.
Alors oui, justement, en 2018, l'Irlande abroge par référendum l'interdiction constitutionnelle d'avorter et obtient ainsi une victoire cruciale pour les droits des femmes, qui s'appuie sur de nombreuses années de mobilisation de la part d'Amnesty International, entre autres. En 2020, l'Argentine légalise enfin l'avortement. C'est un grand succès pour le mouvement des droits des femmes et pour les sympathisants d'Amnesty qui se sont mobilisés pour cette légalisation pendant des décennies. Cette avancée montre à d'autres pays du continent et du monde la voie à suivre pour un accès sûr et légal à l'avortement.
En 2019 et 2020, des modifications législatives au Danemark, en Suède et en Grèce reconnaissent enfin qu'un rapport sexuel sans consentement est un viol. Cela fait suite à des campagnes menées pendant de nombreuses années par des groupes de défense des droits des femmes et de victoires et de victimes de viol, ainsi qu'à la campagne d'Amnesty Parlons du oui, c'était le nom de la campagne. Excusez-moi, c'est mal éclairé, j'ai du mal à lire. L'Espagne annonce également l'examen d'un projet de loi qui définirait le viol comme un rapport sexuel sans consentement, conformément aux normes internationales en matière de droits humains.
Alors qu'auparavant, j'avais l'impression que tout espoir avait disparu, les choses ont changé quand Amnesty est intervenue. Les messages que j'ai reçus m'ont bouleversée. J'ai retrouvé l'espoir. Moz Akatugba, au Nigeria, condamné à mort, soutenu lors des 10 jours pour signer en 2014 et libéré en mai 2015. Donc voilà.
Comme un quoi, jeune de 19 ans condamné à mort. Ouais, c'était vraiment...
Tout à fait.
Ouais, je me rappelle tout à fait de ce...
Et c'était, ça me paraît important, c'est intéressant de terminer avec ce petit témoignage de quelques lignes, parce qu'on vient aussi de terminer la campagne d'Amnesty International 10 jours pour signer 2023, où on a défendu effectivement à nouveau 10 cas de personnes ou de communautés dont les droits sont bafoués. Et pour ne rien vous cacher, on a obtenu ici à Évreux plus de 1000 signatures. Donc merci à tous les gens qui nous ont soutenus.
Merci les gens.
Et ça montre,
merci les gens, voilà.
ça montre effectivement qu'Amnesty, ça marche, puisque Moses, effectivement, a été condamné à mort, a été libéré quelques mois après.
C'était absolument la politique de l'État qui le maintenait en prison. Je me rappelle de ce cas-là, c'était impressionnant.
Voilà, donc on va s'approcher tout doucement au terme de l'émission, mais on va s'approcher du terme de l'émission. On va vous passer, ce soir, on avait dit qu'on passait un peu davantage de musique. Ouais. Donc on va vous passer un troisième morceau. On n'aura peut-être pas le temps de vous passer l'intégralité du morceau, mais au moins le début.
Ouais, déjà démarré.
Et vous allez effectivement reconnaître ce morceau. Faut pas que je me trompe sur la piste à lancer. Voilà. Et on reprend le micro juste après.
Soldat, 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 des miens terres, c'est une clave. Soldat, 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 des miens terres, c'est une clave. Soldat, soldat.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc en ce mardi 26 décembre, Amnesty International, pour la suite et la fin de son émission. Et donc, comme on est le lendemain de fête, effectivement, on a fait quelques erreurs, dont celle-là au niveau de la musique. En fait, le morceau qu'on vous a passé, donc de Césaria Evora, on vous l'aura passé deux fois, parce que j'avais mal installé les morceaux de musique, dont deux fois ce morceau-là. Voilà, mais c'est pas grave.
Vous aviez dormi entre les deux.
C'est pas grave.
Bon, on aurait dû ne rien dire et voir qui allait nous mettre un petit mail en disant « Mais comment, deux fois, avez-vous des intérêts avec Saria Evora ?»
C'est ça, exactement.
Mais oui, il y a les ayants droit, peut-être.
Mais c'est une très belle mélodie choisie par Odile.
Et sans ça, on aurait eu quoi, logiquement?
C'était HK et les Saltimbanques, ce ne sera pas eux, on les passera une prochaine fois.
Pour la prochaine.
Voilà. on va terminer donc en poésie et puis avec nos infos locales avant de vous saluer. Donc, Carlise.
Alors, je ne vous dis pas le nom, mais vous allez le reconnaître. C'est un poème de Paul Éluard. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées et sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous mes chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur le lac du lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te reconnaître, pour te connaître, pour te nommer.
Liberté !
Merci pour le cœur, c'était pas du tout prévu. Donc effectivement, mais en plus, bon, Clarlise, pendant rien vous cacher, a fait du théâtre et ça se sent quand elle lit de la poésie. Effectivement, c'est très vivant. Voilà, donc on va passer à nos infos locales pour nos prochains rendez-vous du mois de janvier, puisque janvier 2024. C'est ça. Donc on se retrouve déjà sur l'antenne de Principe Actif le mardi prochain, mardi 16 janvier, c'est pas mardi prochain, c'est dans 15 jours.
Oui, parce qu'on compte, vous vous rappelez, on compte le nombre de semaines dans le mois et puis on dit deuxième et quatrième, c'est ça?
Non, c'est pas ça. T'as perdu.
C'est la dernière, 15 jours avant la dernière.
C'est le dernier mardi de chaque mois et le mardi 15 jours avant. Non, c'est pas compliqué, mais voilà. Donc ce sera le mardi 16 janvier, 19h, en direct sur l'antenne de Principe Actif, donc notre prochaine émission sur les campagnes d'amnistie pour les droits humains. Toujours nos rendez-vous radio, on se retrouve alors deux jours après, en fait ce sera le jeudi 18, pour une prochaine émission dans le cycle Fréquence Droits Humains, qui sera consacrée à mon corps et mes droits, en direct depuis le Collège de Navarre, donc de 18h à 19h30, ce sera le jeudi 18 janvier, et ce sera animé par nos amis Vincent et JC de la radio avec nous. Voilà. Et puis, on se retrouve aussi le jeudi 11 janvier. Alors, c'est un peu dans le désordre, ces dates. Mais
oui,
bon.
On ne voudrait pas dire. Là, t'as, voilà. T'as pris à la fin du mois et tu remontes là.
Jeudi,
hein.
Jeudi 11 janvier, on est présent avec nos amis du Tangramme pour une pièce de théâtre qui s'appelle Les Géants de la Montagne. C'est au cadran, pas au théâtre, c'est au cadran. Les Géants de la Montagne. Et voilà le thème. C'est une pièce qui a été écrite par Pierre Andello et écrite alors que l'Italie était sous le joug du fascisme. La pièce de Pierre Andello. Était sous le joug du fascisme, oui. Bah oui, je sais que le gouvernement actuel, il est effectivement, mais bon, c'était quand même pire à l'époque, c'était dans les années 20 et 30. La pièce de Pirandello nous amène à embrasser des sentiments universels et à défendre par la puissance des images tout ce qui fonde l'homme, l'être humain, dans son humanité. Voilà. Donc on sera présent, on aura un stand d'information et de signature. Et donc c'est le jeudi 11 janvier à 20h au cadran. Donc je vais reprendre les dates dans le bon ordre. Jeudi 11 janvier au cadran avec pour la pièce Les Géants de la Montagne avec nos amis du Tangramme. Le mardi 16 janvier en direct sur l'antenne de Principe Actif pour l'émission Amnesty. Et le jeudi 18 janvier pour l'émission Fréquence Droits Humains de 18h à 19h30. Voilà. Donc on va...
Et surtout les gens, eh ben pour cette année 2024, gardez les yeux ouverts parce que la défense des droits humains est plus que jamais menacée. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour des signatures. On a besoin de vous pour venir nous voir sur les stands quand on tient les stands. On a besoin de vous aussi pour faire des émissions, par exemple. Et si vous voulez nous rejoindre, le groupe d'Evreux, on est des...
Très, très accueillants.
On est très accueillants, voilà. Et on a besoin... aussi, que vous veniez nous voir quand on fait l'émission, par exemple, dans le studio, c'est très sympa, et où nous rejoindre pour nos réunions mensuelles. Voilà.
Très bien.
Voilà. Et là, merci les gens.
Trois nouvelles personnes. Alors, autour votre impression, qu'est-ce que vous pensez? C'est super de faire de la radio, Odile.
Ah ouais, super.
Et Dominique,
une bonne ambiance.
Bonne ambiance.
L'ambiance est très bonne.
Et Christian.
Excellent.
Voilà, regardez ça, l'année 2024, on sera très très nombreux à la radio.
C'est ça.
Et promis, Manu, pour le laboratoire, on te laisse toujours l'antenne
à 47. On aura fini à 47.
Donc voilà. Et
oui, mais 47 que cette fois-ci, parce que les autres, c'est 57.
On rappelle alors l'adresse mail du groupe pour ceux qui veulent nous contacter. Donc c'est evreux@amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Et puis donc notre local, il se trouve 3 rue Vigor à l'espace Saint-Léger. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à nous contacter. On se souhaite une bonne année 2024. Parce je ne sais jamais si c'est 2024 fêtes. Ou 2025. Non, 2024.
Oh, tu veux dire 25, mais c'est un peu en avance quand même.
Je me vieillis tout seul.
Récupérez bien Noël. Et puis...
Donc, bonne année à tout le monde. Et donc, on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif le mardi 16 janvier prochain. Voilà. Bonsoir à tout le monde.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.